Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio pour la au moins 3 ou 4e fois Luc Boussard, notre ex-président de Radio Diwa, qui est aussi moine zen, écrivain, éditeur et responsable du dojo zen de Di. Avec lui aussi, une pratiquante de zen, Carole Biret, qui sont venus annoncer un événement qui aura lieu au Loco Loco le vendredi 27 septembre, une conférence sur le zen, entrée libre à 18h. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
D'ailleurs, y aura-t-il un thème à cette conférence ?
Il y a un titre, ça s'appelle Zen, simplement s'asseoir, qui résume assez bien l'essence de notre pratique. Et puis, il faut préciser qu'il y aura une initiation à la posture, à la pratique de zazen, après la conférence. Et qu'il y aura aussi, pour ceux qui le souhaitent, un dîner dans les locaux du Loco Loco.
Comme tu l'as très bien dit, s'asseoir suffit sans doute à expliquer le zen, en fait, ou presque.
Dans cette lignée du zen, on attache une importance considérable, primordiale, à la pratique de ce qu'on appelle la méditation, ce qui est un peu un contresens, parce qu'on ne médite absolument pas. On se contente de s'efforcer d'être complètement présent, à la fois vigilant et détendu, dans une posture très précise, qui permet une respiration elle aussi très précise, et qui favorise un état de conscience, un état d'esprit qui est celui de zazen. Donc on attache beaucoup beaucoup d'importance à cette posture. La posture est finalement l'alpha et l'oméga de notre pratique.
Donc si je peux me permettre de placer ce petit adage, de, je ne sais pas si c'est du zen, mais c'est la posture qui chasse l'imposture.
Oui, c'est une phrase qui a fait beaucoup parler d'elle, qui a été trouvée par, j'ai oublié son nom, par un disciple de Maître Deshimaru qui a écrit un livre qui s'est vendu un peu partout, même au Japon, où il a trouvé cette formule, la posture chasse l'imposture.
Alors, si on revient à cette posture d'assise, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Je ne veux pas être orienté résultat, mais néanmoins, qu'est-ce que ça apporte de s'asseoir pendant un certain temps par jour?
C'est pas facile de répondre à cette question. C'est une question qui est bien entendu qui est posée très très souvent. Et moi j'ai beaucoup de mal à y répondre. Parce que d'abord, je ne sais pas ce que je serais devenu si j'avais pas pratiqué. Je m'observe, je sais qui je suis, je me connais. Parce que la pratique c'est avant tout se connaître soi-même par l'observation. Et je ne peux pas dire ce que je serais si j'avais pas pratiqué zazen. Mais ce que je peux dire, c'est que au stade où j'en suis, je ne peux même pas envisager que je ne pratique pas. C'est quelque chose qui est tellement intégré dans ma vie, qui est tellement à la source de ma vie, que je ne peux pas envisager que je ne pratique pas. Et je pense, mais peut-être Carole nous le dira, oui, parce que ça fait 2 ans qu'elle pratique, moi je pense qu'on arrive, un de nos ancêtres, Kodo Sawaki, le fondateur de cette lignée finalement, disait que pratiquer le zen, pratiquer zazen, c'est trouver la dimension adulte de sa vie. Et je pense qu'effectivement, quand on pratique zazen, on est beaucoup moins piégé par ses pulsions. On a beaucoup plus de sang-froid. Je crois pouvoir dire ça.
Et que t'en sembles, Carole, alors? Toi, ça fait 2 ans que tu pratiques, hein, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que ça t'apporte de pratiquer tous les jours?
Oui, tous les jours. C'est difficile à expliquer aussi. C'est plus dans le ressenti, en fait. La première approche, c'est un intérêt plutôt intellectuel, enfin pour ma part en tout cas. Et ensuite, c'est par la posture et la pratique qui se passe un ressenti corporel. Enfin, c'est le corps qui parle et la pratique du coup s'impose toute seule, même quand on n'a pas envie.
Alors, je me permets de te titiller néanmoins. Ouais. Tu viens de dire que c'est un intérêt intellectuel. Alors, je ne comprends pas. Vas-y, explique-toi.
À la base, ce qui m'a attiré vers le zen, pour aller pratiquer une première fois, y revenir, c'est l'enseignement que je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs. Pour moi, le bouddhisme, c'était le Dalai Lama. Voilà, c'était... Donc après, c'est un intérêt pour l'enseignement. Qui d'ailleurs ne dit pas qu'on trouve quelque chose, puisque dans le zen, on est censé n'en rien trouver. Mais
Ils aiment bien les paradoxes dans le zen. Hein.
Ouais. Ouais, c'est justement, c'est cet intérêt-là.
Ma question était biaisée.
Les paradoxes.
Quel intérêt ai-je à méditer, sachant que si j'ai un intérêt, je m'éloigne du but, en fait. Mm. Donc, mais ceci dit, bon, on n'est quand même pas des êtres totalement illogiques. Si on fait quelque chose, c'est pour une raison. C'est la raison sur laquelle je m'interroge.
Bien entendu, dire le contraire, ça serait se raconter des histoires. C'est bien évident que tous les gens qui arrivent à la pratique cherchent quelque chose, ne serait-ce que apaiser leur angoisse, à arrêter leur souffrance. Et Carole a complètement raison, il y a un aspect intellectuel aussi dans le zen. Il y a toute une explication du monde, toute une conception du cosmos, de l'être humain, qui tient bien la route. Même si, bien évidemment, il s'agit de passer au-delà pour accéder à ce qu'on appelle l'expérience intime, c'est-à-dire la certitude intuitive, au-delà de tout discours. Mais il y a tout un discours quand même.
Dans le petit fascicule que tu éditas récemment sur la séchine que vous avez eue en 2013,
au camp d'été,
donc il y a une phrase que j'ai retenue de Dogen qui disait « Celui qui ne reconnaît pas le visage
originel
est un imbécile ». C'est un peu lapidaire quand même. C'est-à-dire celui qui ne sait pas ce qu'il est, celui qui passe à côté de lui, il s'est planté de chemin.
C'est une phrase qui peut paraître un petit peu dure, mais que je trouve extrêmement percutante. C'est-à-dire que Dogen nous dit que celui qui ne trouve pas sa nature profonde, sa véritable essence, sa véritable dimension, est un imbécile, il a raté sa vie. Le but de l'existence humaine, c'est de s'éveiller, c'est de se trouver soi-même, de se rencontrer soi-même, dans une dimension non égotique, dans une dimension universelle. Et celui qui ne fait pas ça, dit Dogen, est un imbécile.
Alors, il y a un petit adage taoïste qui est encore plus percutant, moi j'aime bien aussi, c'est « Les imbéciles verront les ennuis de près ».
Ah oui, c'est vrai ça, oui. Je dirais même, ils les voient.
Ils se prennent des lampadaires et ils sont un peu dans le cosmos, donc ils oublient des trucs. Ils ne sont pas présents, voilà, ils ne sont pas dans ce qu'ils font.
Mais ce que je dis aussi dans la petite brochure, et qui est très très important, quand Dogen lance une phrase comme ça, très provocatrice, il ne nous demande pas de regarder les autres, il nous demande de nous regarder nous-mêmes. C'est de trouver l'imbécile en nous, c'est pas de trouver l'imbécile chez les autres, ça n'a aucun intérêt.
Et donc, encore une fois, pour parvenir à évacuer l'imbécile en nous, ou en tout cas, prendre conscience qu'il est là et donc qu'il disparaisse de lui-même, il n'y a que la posture, ou presque.
Non, moi je ne dis pas du tout ça, je suis persuadé, intimement persuadé, que c'est la démarche fondamentale de tous les êtres humains, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions. Donc il y a des gens qui utilisent d'autres moyens, je ne sais pas, je peux parler des soufis, je peux parler de certains mystiques chrétiens, je peux parler des indiens d'Amérique, dans toutes les traditions il y a cette démarche-là. Mais il se trouve que moi je suis un moine zen, que j'enseigne le zen, et que ma voix, la voix que j'enseigne et que je pratique, c'est la voix du zen. Donc je ne peux pas en enseigner 25 à la fois, ni en pratiquer 25 à la fois. Ma spécialité, c'est zazen.
Ah mais tu reconnais qu'effectivement la pêche à la ligne puisse être une voie de libération alors ?
Bien sûr. Non, la pêche à la ligne n'est pas une voie de libération. Mais on peut pêcher à la ligne avec un esprit libre, souverain, indépendant, adulte, ou on peut pêcher à la ligne comme un imbécile en étant excité, en comptant les kilos de poissons qu'on va ramener chez soi.
Carole, bon, tout à l'heure, je te posais la question de savoir l'intérêt que tu avais éprouvé de te lancer dans la méditation. Mais au fur et à mesure, dans ton quotidien, est-ce que tu en ressens des effets, justement ? Le fait de méditer, est-ce que ça te procure quelque chose que tu n'aurais pas si, enfin, est-ce que tu arrives à le sentir, ça ?
Dans la vie quotidienne, ça ne change rien. Les choses sont comme elles sont, la vie comme elle est, on travaille, on a les mêmes problèmes qu'avant. Après, je dirais que c'est plus la façon de voir, effectivement, de plus raconter d'histoires. D'être plus dans la réalité des choses comme elles sont. C'est plus à ce niveau-là. Du coup, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, d'intime, enfin, qui est difficilement explicable par des mots ou par des faits.
Tu connais bien le proverbe. Ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc normalement, si tu sais bien, si zen t'apporte une clarté.
Oui, mais généralement, j'ai remarqué parce que... Donc voilà, je débute, donc effectivement je repère tout de suite un peu certains petits changements, on va dire. Mais dès que j'ai voulu en parler ou essayer d'expliquer, ou par le raisonnement, essayer de trouver des liens de cause à effet, tout disparaît et on va droit dans le mur, en fait. Donc plutôt laisser faire les choses et pratiquer, voilà, c'est tout, en fait.
Tu es quand même intimement convaincu que ce que tu pratiques t'apporte quelque chose, quand même.
Oui.
On ne fait pas quelque chose, même s'il ne faut pas être, comme je le disais tout à l'heure, avoir un intérêt. On fait quelque chose parce qu'on sent que ça nous fait du bien, enfin, quelque part.
Oui, oui, oui. Oui, mais c'est d'être dans la réalité, je pense. Enfin, comme disait Dogen, de voir son... Peut-être pas de le voir, mais de sentir le visage originel. D'essayer de se rapprocher, en tout cas, de ça, quoi.
Alors, Luc, tu m'inquiètes un petit peu. Et tu m'as inquiété énormément dans ce que tu as dit tout à l'heure. Tu m'as dit que si tu ne méditais pas, ça n'irait pas. Tu es donc accro à l'assise le matin. Et si tu ne la pratiques pas, tu es perturbé, tu tournes en rond, comme un canard sans tête.
Moi, je dirais plutôt le contraire. Pour revenir, par une brève digression sur ce que disait Carole, n'en déplaise à Boileau, je trouve ça très, très cohérent. C'est pas parce que tu as une pratique spirituelle, ou je ne sais trop comment l'appeler, que tout d'un coup tu vas cesser d'être un être humain. Tu restes un être humain à part entière. Et l'être humain, il fonctionne avec des émotions, des pulsions, des pensées, des opinions. Et ça, tu ne changeras jamais ça. Ça, l'être humain restera toujours un être humain. On ne va pas devenir des espèces d'anges ou de surhommes. Mais par contre, elle le disait très bien, c'est le regard sur sa propre aliénation qui change. C'est-à-dire, on se voit. On se voit continuellement. Et donc, on crée une certaine distance. Et par le biais de la distance, un certain détachement. Donc, on n'est pas prisonnier de tous ces processus égotiques. On trouve un certain recul, on les voit au moment même où ils sont à l'œuvre. Donc à partir du moment où on les voit, on en est moins prisonnier. Mais on reste des êtres humains, il ne faut pas espérer devenir autre chose qu'un être humain, c'est bien évident. Pour revenir à
ta question, est-ce que tu es accro à l'assise? Et si tu devais la lâcher, en serais-tu perturbé?
Je pourrais paradoxalement te répondre par une autre question. Est-ce que tu es accro à la respiration?
Vraisemblablement, c'est tellement lié à la vie que oui.
Mais c'est pas une histoire d'accro. Pour moi, pratiquer est quelque chose de complètement normal. Ça me permet de revenir à la source, de me dégager justement de ce à quoi je suis accro. C'est-à-dire, je suis comme tout le monde, je suis accro à mes pensées, à mes peurs, à mes émotions, à mes opinions personnelles. Et par la pratique, je peux revenir à ce qu'on appelle le point zéro de la conscience. C'est-à-dire, trouver un recul par rapport à tous ces processus égotiques. Donc c'est au contraire pour me désaccrocher, si tu veux, que je pratique. Et c'est devenu quelque chose de presque automatique chez moi. Je me lève, je fais zazen. Et je ne peux pas imaginer que je ne le fasse pas. Comme tout le monde, j'ai dû avoir des crises et j'ai dû me dire qu'est-ce que c'est que cette pratique de... etc. Et j'ai dû arrêter, ça n'a jamais duré plus d'une semaine, je crois. Je suis tout de suite revenu sur mon zafou.
Et ça dure combien de temps le matin? Combien de temps médites-tu?
Ça, chacun trouve sa mesure. D'abord, il faut dire que quand on est débutant, c'est pas du tout recommandé de pratiquer tout seul, parce que on va s'égarer, on a besoin des autres, et on a besoin de l'enseignant, on a besoin du maître. Par contre, au bout de quelques temps, comme Carole ou comme moi, on peut pratiquer tout seul. Alors moi, je suis tout à fait modéré dans ma pratique, je fais, disons, 50 minutes tous les matins. Et puis quand on va au dojo, là pour le moment c'est deux fois par semaine, on fait une heure et demie de zazen.
Et tu parles de temps en temps, tu illustres des textes de...
Oui, ça aussi c'est une caractéristique de la lignée à laquelle j'appartiens. L'enseignant, le maître, le responsable, donne un enseignement pendant zazen. Justement, parce que zazen est un moment extrêmement favorable, extrêmement propice, parce que l'enseignement n'est pas reçu par le cerveau frontal. Il est reçu par la posture de zazen, par l'homme, le pratiquant, assis en zazen. Donc il est reçu sans filtre, sans analyse, sans jugement. Et il rentre dans les couches profondes de l'être. Moi, tout ce que j'ai appris du zen, je l'ai appris en écoutant les enseignements de mon maître avant sa mort. Tout ce que je sais du zen me vient de lui, et bien sûr des textes que je continue de lire.
Question subsidiaire ou plus générale, est-ce que le zen s'adresse à tout le monde?
Théoriquement, le zen s'adresse à tout le monde. C'est quelque chose d'universel. C'est une découverte de sa propre liberté. Hein. Mais une fois qu'on a dit ça, il est bien évident que les gens qui ne se posent pas de questions n'iront jamais faire zazen, premièrement. Et deuxièmement, qu'il faut quand même un minimum de bonne santé physique, parce que la posture est quand même contraignante, Et donc, il y a des gens qui sont soit infirmes, soit perclus de rhumatisme, soit qui ont beaucoup de mal à pratiquer. Donc, à la limite, ils peuvent pratiquer même au dojo sur une chaise, ne pas prendre la posture exactement, mais c'est quand même très difficile. Et en plus de ça, il faut préciser qu'on peut... Il y a des gens très exigeants qui vont demander le maximum de la pratique des zazen, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'éveil, la liberté. Mais on peut aussi pratiquer de manière beaucoup plus simple, par pratiquer de manière épisodique, avec moins de régularité, et simplement le pratiquer comme une technique de bien-être. Il y a des gens qui font ça. Le maître va leur dire que c'est pas très sérieux, qu'il ferait mieux de s'engager plus. Mais pourquoi pas après tout ? Pourquoi pas pratiquer simplement pour se sentir bien, et sans aller au-delà ? Et de toute façon, les choses se font tout à fait naturellement. Quand on entre dans cette pratique, notre vision du monde évolue, et nos aspirations évoluent aussi.
Y a-t-il beaucoup de gens qui pratiquent avec toi dans le dojo de Zen, et regrettes-tu leur nombre insuffisant ?
Beaucoup, tout est relatif. À l'échelle de 10, c'est peut-être beaucoup, parce que je me suis amusé à faire un petit calcul. On est, entre une demi-douzaine et une douzaine, selon les séances. Mais disons que si on est 8 à l'échelle du diwa, ça fait un diwa sur 1000. S'ils avaient la même échelle à Paris, ils seraient 3000 dans le dojo. Donc nous, 8, c'est pas mal. Bien sûr, quand il n'y a personne dans le dojo, ça me donne de l'irritation et de la lassitude. J'ai l'impression que je me démène pour rien du tout. Mais d'un autre côté, Kodo Sawaki, donc le fondateur de notre lignée, disait qu'il lui arrivait de faire zazen avec un seul disciple. Et les gens qui passaient dans le couloir entendaient Kodo Sawaki qui parlait fort, qui donnait son enseignement avec une conviction inébranlable, et ils se disaient, il doit y avoir au moins 20 personnes. Ils ouvraient la porte, et vous voyez, il y avait un disciple qui écoutait Kodo Sawaki. Kodo Sawaki s'en fichait éperdument. Et il y a même des maîtres, des grands maîtres, qui sont conservés dans la lignée, dans la tradition, comme des très grands maîtres, qui n'ont jamais eu un disciple. C'est pas vraiment le problème. Parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, on parle beaucoup de pratiquer pour soi, qu'est-ce que ça nous fait, est-ce que ça fait du bien. Mais quand on évolue un petit peu, on s'aperçoit qu'on pratique plus pour les autres que pour soi. Plus pour le bien-être de l'espèce humaine, pour le salut de l'espèce humaine, que pour soi-même. On est beaucoup moins conscient des frontières de son ego, de la séparation entre soi et les autres. Plus on évolue, plus on découvre une dimension profonde du bouddhisme qui s'appelle la compassion. Et on est de plein pied avec tout le monde. On ne travaille pas pour soi, on travaille pour tout le monde.
Donc toi, tu n'as pas de souci d'avoir l'impression de prêcher dans le désert, quoi, ou presque.
Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais je m'en remets très vite. Hein.
Après, tu peux observer la personne qui veut avoir raison en toi, peut-être.
Ça m'affecte parce que je le regrette pour l'espèce à laquelle j'appartiens, que l'aliénation, surtout à notre époque, soit telle que les gens aient perdu de vue la quête originale. Mais ça me chagrine pour un autre point aussi, qui est très important, c'est que la pratique collective est beaucoup plus puissante, beaucoup plus énergique que la pratique individuelle. Moi, je fais zazen toujours, tous les jours tout seul, et j'ai une prédilection marquée pour le zazen en groupe. Parce que, bon, Maître Deshimaru utilisait une image pour illustrer ça. Il disait, pour qu'un feu marche bien, il faut qu'il y ait beaucoup de bûches. Et il y a ce phénomène dans le dojo. Quand on pratique tous ensemble, il y a une élévation du niveau de clarté mentale, du niveau d'énergie, de concentration. Donc c'est bien d'être nombreux dans le dojo. C'est plus efficace. Voilà.
Tu as ressenti ça, Carole, le fait que plus vous êtes nombreux dans le dojo, plus c'est facile ?
Assez récemment, puisque c'est vrai que, donc à dire, on n'est pas quand même très nombreux, donc et que même si c'est pas préconisé, j'ai quand même démarré en faisant zazen tous les jours dès le départ. Donc du coup, j'ai une certaine habitude à être seule pour pratiquer. Et c'est vrai que là, maintenant, je commence à comprendre l'intérêt de la pratique collective qui demande aussi des efforts au niveau de l'ego, enfin au niveau de plein de choses, de la posture, pour pratiquer ensemble, pour que l'harmonie soit quand même présente. Donc je commence effectivement, oui, à voir l'intérêt de ce qu'on appelle la sangha, c'est ça ?
Oui, voilà. La famille des pratiquants.
Oui. Être assis, c'est vraiment se concentrer sur soi, tout en pourtant prendre conscience qu'il y a d'autres personnes à côté de toi. C'est ça.
Tu disais au début que le zen, c'est paradoxal. Et c'est vrai, le zen, c'est complètement paradoxal. Quand on envisage un problème, une idée, un concept, dans le zen, il faut épouser les deux extrémités. C'est-à-dire comprendre, par exemple, dans le cas que tu cites, comprendre complètement la solitude, hein, on est né seul, on mourra seul, et comprendre en même temps complètement l'aspect cosmique et collectif. On doit, Deshimaru disait, embrasser les contradictions. On ne doit jamais s'arrêter sur un aspect. Et les deux aspects sont présents dans la pratique. À la fois une solitude, mais comme le diamant, tu vois, complètement intégrale, totale. Personne ne peut aller pisser à notre place, personne ne mourra à notre place. Et en même temps, une ouverture totale aux autres et à l'univers entier. Il y a les deux.
Et peut-être d'autant plus qu'on est soi-même qu'on peut donner aux gens.
Oui, oui. Plus on est soi-même, plus on se rapproche de cet esprit originel, plus, je le crois, plus on peut donner aux gens. Parce qu'on n'est pas braqué sur ses petits appétits et ses petites peurs à soi.
Alors Luc, tu sais bien que nous avons, lors de nos émissions précédentes, beaucoup parlé de moralité, car c'est un de nos légères différences de conception d'un certain type de spiritualité. Si je peux me permettre, j'ai plutôt pratiqué un bouddhisme birman,
bien sûr,
Vipassana,
tu peux te permettre. Oui.
Et donc, dans lequel la moralité est la base de la méditation. C'est-à-dire que l'octuple note sentier, il y a effectivement ne pas boire, ne pas prendre la femme de ton voisin, ne pas prendre d'intoxicants, et puis un certain nombre d'axiomes moraux qui, s'ils ne sont pas appliqués, fragilisent la méditation. Parce que forcément, si je médite tout en venant de tromper mon voisin, je vais avoir un conflit, donc je vais avoir du mal à méditer. Donc, faisons un petit point sur la conception de la lignée de Taisen Deshimaru, qui est beaucoup plus libre apparemment. Vous n'avez aucun précepte, si ce n'est qu'en continuant à s'asseoir et en prenant des distances vis-à-vis de son propre univers, ça va peut-être disparaître.
Alors, écoute, j'ai plusieurs points que je voudrais aborder pour te répondre. D'abord, il y a une différence, au moins à un niveau comme ça, primaire, évident, entre les deux formes de bouddhisme que sont le zen, qui est Mahayana, et le vipassana, qui est Hinayana, le grand et le petit véhicule. Ces deux traditions sont issues du bouddhisme, et le bouddhisme, il faut le rappeler, le peu que je sache, parce que je ne suis pas vraiment un bouddhiste virulent, c'est les quatre nobles vérités, c'est-à-dire la constatation de la souffrance,
L'origine de la souffrance.
L'origine de la souffrance, la fin de la souffrance et les moyens pour y parvenir. Donc, et c'est dans le quatrième, dans la quatrième noble vérité, puisque les moyens pour y parvenir, tels qu'ils sont exprimés dans les sutras originales, c'est l'octuple sentier dont tu parlais. Ça, c'est le bouddhisme, disons, primitif, mais pas dans un sens péjoratif, hein, c'est-à-dire c'est le bouddhisme originel. Et le zen, le Mahayana, qui a bénéficié énormément de l'apport chinois, de l'apport du taoïsme, s'est totalement écarté de cette notion d'octuple sentier. C'est-à-dire que dans le zen, dans le chan, donc le seul précepte finalement, c'est la méditation. Parce que nous, on dit que la méditation inclut tous les préceptes. Parce que d'abord, quand on médite, on ne peut pas faire de péché, on ne peut pas faire de faute, on ne peut pas aller contre les autres préceptes, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne fait pas de mal à son voisin. Bon, ça c'est un aspect des choses. L'autre aspect, je repense là à ce que disait Maître Eckhart, donc dans une toute autre tradition, dans la mystique rhénane du XIVe siècle, Maître Eckhart disait « Il n'est pas un péché que tu aies commis, que Dieu n'ait voulu que tu le commettes ». C'est-à-dire que toi, quand tu dis « Si je viens à la méditation après avoir trompé mon voisin », c'est pas bien. Mais de toute façon, tu l'as fait, tu l'as trompé ton voisin. C'est déjà fait, c'est déjà trop tard. Donc autant que tu viennes méditer l'esprit libre, que tu te concentres ici et maintenant sur ta posture, sur ta respiration, sur ton état d'esprit, et tu vas revenir à un état de clarté de conscience qui fait que peut-être, en sortant du dojo, tu vas aller voir ton voisin, tu vas t'excuser, tu vas lui dire « je recommencerai pas », tu vois, et en pensant sincèrement. Ça, moi, je pense que ça ne sert à rien de se compliquer la vie, de se martyriser, de culpabiliser pour des erreurs de comportement. Parce que des erreurs de comportement, on en fait tous, moi le premier, hein, c'est inévitable, ça fait partie de notre karma, de notre nature humaine.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de préceptes moraux inaliénables du style, par exemple, des axiomes de bon sens, le fait que de boire, voire de consommer des hallucinogènes puisse être néfaste. Enfin, je ne sais pas, hein, je pose des questions, j'en sais rien.
Bon, écoute... moi, je vais recommander
voir avoir des pratiques sexuelles avec des petits-enfants. Tout serait permis puisque, après tout, quand je médite, il faudrait que je m'accepte tel que je suis, ou en tout cas que je n'ai pas de conflit. Enfin,
bon, je vais recommander à personne d'être pédophile ou zoophile ou de prendre des hallucinogènes, bien évidemment. Mais ceci dit, le zen est fermé à personne. On dit dans le zen que même un grand bandit, un grand assassin, s'il a l'esprit de la voie et s'il vient pratiquer sincèrement, s'éveillera. Et bien entendu, il arrêtera d'assassiner des gens ou il arrêtera d'avoir des rapports sexuels avec des petits-enfants. Mais ça, ça se fait. Le zen n'est fermé à personne. Quand on s'observe bien, à travers la pratique, parce que moi, c'est ma façon de m'observer, on s'aperçoit que toutes les saloperies de l'être humain, elles sont en nous. Elles sont à un degré larvaire où elles s'expriment, mais toutes les potentialités les plus sombres de l'être humain existent en chacun d'entre nous. Quand on observe le fonctionnement de son mental, on s'aperçoit qu'on est tous, mais vraiment, un laboratoire de l'ignominie, de l'abomination. Hein. Alors, on développe certains penchants, on n'en développe pas d'autres, on a chacun nos caractéristiques qui fait qu'on est avide de pouvoir, ou on est obsédé sexuel, ou... Mais toutes ces potentialités-là sont présentes en nous. Et la meilleure manière de les désamorcer, c'est de les observer et de les reconnaître pour ce qu'elles sont. C'est vraiment la meilleure manière de les désamorcer.
Alors, t'as pas tout à fait été jusqu'au bout pour les reconnaître pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ce sont des habitudes mentales, karmiques, qui viennent de notre passé familial, de notre insertion sociale, de la société dans laquelle nous vivons, des films qu'on regarde à la télé, mais ce sont des illusions qui peuvent être extrêmement prégnantes, qui peuvent nous occuper complètement, mais quand on les observe, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas de substance, qu'elles sont tout le temps en train de changer. Parfois elles sont là, parfois elles ne sont pas là. Elles n'ont pas de réalité propre, ce sont des fantasmes. Et la meilleure façon pour moi que je connaisse de s'en libérer, c'est de les observer. Là, je vais te citer une phrase de Dogen, donc le fondateur du zen au Japon, au XIIIe siècle, qui pour moi résume à la perfection notre pratique. Dogen dit « Étudier la voie, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. Et s'oublier soi-même, c'est être certifié par toutes les existences, c'est-à-dire c'est trouver la condition normale, originelle. » Donc lorsqu'on s'observe implacablement, comme on le fait en zazen, on s'oublie soi-même, parce qu'on s'aperçoit que tout ce fatras n'a pas de réalité propre, qui n'est pas très intéressant, qu'il est à des degrés moindres, qu'on est tous les mêmes, on est tous à la même enseigne, et qu'il s'agit simplement de se libérer de ça. Et ça se fait automatiquement par la pratique.
Alors Carole, ça fait 2 ans que tu pratiques. Luc l'a dit tout à l'heure, ne vient pas à la pratique des gens qui n'ont aucun questionnement ou qui n'ont peut-être aucun problème. On vient peut-être au zen parce qu'on a quelque chose à régler peut-être, ou on se cherche en tout cas. Est-ce que depuis 2 ans que tu as commencé, tu as pu voir, alors c'est toujours, je reviens toujours un petit peu à ma question originelle, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne un petit peu de pratiquer ? Est-ce que depuis 2 ans que tu pratiques le zen, tu constates dans ta vie un changement pour, je ne sais pas, j'ose pas dire pour le mieux, mais en tout cas, quelque chose qui se passerait de façon plus harmonieuse en tout cas ?
Ben, un changement, c'est pas le bon mot, mais comme l'a très bien dit Luc là... S'observer et prendre conscience effectivement de que toutes nos idées, la petite voix intérieure n'est pas forcément ce qui nous caractérise et on n'est pas forcément comme ça et lié à ce qui nous passe par la tête en fait.
En fait, on est tous fous alors.
Presque, voilà, c'est ça.
Déjà, le fou qui s'en aperçoit est déjà légèrement moins fou que les autres.
Exactement, exactement. Très juste.
Si on en revenait un petit peu au programme de la conférence du vendredi 27 septembre qui aura lieu au Loco-Loco à 18h, quel thème vas-tu aborder, Luc ?
J'en ai pas encore la moindre idée, mais c'est ce qui est sûr, c'est que je vais parler du zen. Et puis donc, je parlerai le moins longtemps possible pour pas fatiguer l'auditoire. Et après, il y aura un débat entre la salle et moi, ou même peut-être dans la salle. Et ensuite, il y aura une brève initiation à la posture, brève, juste pour donner une petite idée de ce que c'est. Et puis, on en aura fini, et ceux qui le souhaitent pourront rester dîner au Loco-Loco, puisque c'est ainsi que Vincent fait sa recette. La conférence est gratuite, et le seul bénéfice qu'il va en tirer, lui, c'est les gens qui vont rester dîner après.
Très bien, ben on n'a plus qu'à dire à tous les gens qui ont quelque chose à régler encore avec eux, et je suppose qu'il y en a encore un certain nombre qui ont un certain nombre de choses à régler avec eux-mêmes, de venir à cette conférence, puis à méditer tous les mercredis et les samedis. Rappelle-nous un petit peu.
Non, mercredi à 7h le matin et dimanche à 10h30.
Et où est-ce que ça se passe, Luc ?
Ça se passe dans les locaux de Clermont-Tessineau, les locaux de Shiatsu et Douyin, en face du restaurant Le Mazet, rue Élie Brochier.
Y a-t-il un numéro avec lequel on pourrait te contacter pour avoir
des renseignements ? Oui, donc pour tous les renseignements, on peut me contacter directement au 04 75 22 26 93.
Merci à tous les deux.
Merci.
Merci à toi, Louis.
Au revoir.
Interview.
L'interview du jour.